Chers frères et sœurs, que signifie de profaner le nom de Dieu? Certains sont arrivés à la conclusion que cela signifie que vous devez reconnaître l'existence d'un nom particulier pour Dieu qui doit être utilisé dans une langue spécifique, et nous y faisons parfois référence comme le mouvement des noms sacrés ou la croyance des noms sacrés. Selon cette pensée, il semblerait que l'utilisation de certains noms de Dieu en langue hébraïque serait d'une certaine manière plus sacrée que d'autres noms de Dieu utilisés dans d'autres langues. Ce n'est probablement pas une question déroutante pour la plupart d'entre nous, heureusement, mais il est probable qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous seront confrontés à quelqu'un qui adhère à cette mouvance. Cette personne peut penser avoir découvert une vérité importante, et cela devient un point crucial pour elle. Ce genre de question revient souvent dans les correspondances personnelles, et certains de nos invités aux conférences du monde de demain en parlent également. Il est enfin important pour nous d'examiner cette question sous un autre angle, car le problème des noms sacrés ou des soi-disant noms sacrés que ce mouvement met de l'avant, peut être mêlé à certaines vérités, telles que l'observance du sabbat. Je vais maintenant citer Wikipédia, cette grande source de savoir et de sagesse, sous la rubrique « Mouvement des noms sacrés ». Le mouvement des noms sacrés est un mouvement au sein de l'adventisme qui se préoccupe de mettre l'accent sur l'utilisation du nom hébreu de Dieu. Influencé par Clarence Orville Dodd, le mouvement considère que l'utilisation du nom de Dieu est aussi importante que les fêtes juives. Les adeptes du mouvement des noms sacrés observent aussi généralement un grand nombre de lois et de cérémonies de l'Ancien Testament, comme le sabbat du septième jour, les fêtes de la Torah et les lois de l'alimentation. Le mouvement rejette également la doctrine de la Trinité, qu'il considère comme non biblique. Il est donc opportun de souligner que, puisque certains d'entre eux acceptent le sabbat, certains d'entre eux acceptent les jours saints et les lois alimentaires, il peut sembler qu'ils ne sont pas si éloignés de nous. Certes, ils n'acceptent pas tous le sabbat, mais le lien est suffisamment fort pour que, de temps à autre, les gens soient pris au dépourvu. Il convient de noter leur histoire et leurs origines, et je poursuis dans l'article de Wikipédia. Le mouvement des noms sacrés est né au début du 20e siècle de l'Église de Dieu du septième jour. Ce mouvement n'est pas né de l'Église de Dieu du septième jour, mais il y avait un lien. Ce mouvement a été influencé par Joseph Franklin Rutherford, qui a changé le nom de la branche principale du mouvement des étudiants de la Bible en Témoins de Jéhovah en 1931, en se basant sur sa croyance de l'importance du nom hébreu de Dieu. C.O. Dodd, membre de l'Église de Dieu, septième jour, a commencé à organiser les fêtes juives, y compris la Pâque en 1928, adoptant les doctrines du nom sacré à la fin des années 30. Dodd a commencé à publier le magazine The Faith à partir de 1937 pour promouvoir ses vues. L'érudit religieux américain John Gordon Melton a écrit « Aucune force de diffusion du mouvement des noms sacrés n'a été aussi importante que le magazine The Faith ». Des personnes ont eu affaire au mouvement des noms sacrés au 20e siècle, comme M. Herbert W. Armstrong. Nous avons entendu parler de lui, n'est-ce pas? Il l'a vivement critiqué, disant que le mouvement des noms sacrés consistait en de petits groupes divisés et éclatés sur le plan doctrinal. En vérité, M. Armstrong avait beaucoup plus à dire. Nous allons en parler plus en détail dans un instant. Wikipédia n'a pas traité les sujets les plus importants qu'il a abordés, mais ils en donnent un aperçu. L'article se termine ainsi. Après la mort de C.O. Dodd en 1955, le pionnier des noms sacrés, les adeptes des noms sacrés sont devenus encore plus confus dans leur doctrine quand leur berger a disparu. Le mouvement des noms sacrés n'a pas produit beaucoup de résultats. Les assemblées de Yahweh, qui ne font pas partie du mouvement des noms sacrés, sont nés du besoin d'avoir une position doctrinale solide, harmonieuse, organisée et unifiée. Le mouvement des noms sacrés a rejeté les assemblées de Yahvé. Jusqu'à ce jour, le mouvement des non-sacrés est toujours profondément divisé sur le plan doctrinal, malgré le fait qu'ils organisent chaque année des conférences sur l'unité. C'est donc un mouvement relativement récent, apparu il y a moins de 100 ans, dont certaines de ses origines sont liées à celles de l'Église de Dieu du septième jour. Ce qui est fascinant, car nous considérons l'Église de Dieu du septième jour comme l'ère de Sardes de la véritable Église de Dieu, comme mentionné dans Apocalypse 3. Cela vaut donc la peine d'en parler, car certaines de ces choses peuvent semer la confusion, en particulier lorsqu'il y a en façade ce qui semble être un effort d'être zélé pour la justice. Pourtant, après réflexion, on constate souvent que ce n'est pas vraiment le cas. Examinons donc cette question aujourd'hui. Comment devrions-nous considérer le soi-disant mouvement des non-sacrés ou le mouvement des non-hébraïques? Est-il impératif pour Dieu que nous l'invoquions exclusivement par son nom hébreu? Et quel est le sens de son nom pour nous au sein de l'Église actuellement? Si vous voulez un titre, le titre est « Devrions-nous utiliser les noms sacrés? » Devrions-nous utiliser les noms sacrés? Abordons le sujet. Finalement, les partisans du soi-disant mouvement des noms sacrés estiment que, pour honorer Dieu et respecter le troisième commandement, il faut utiliser le nom hébreu de Dieu. Et pour eux, c'est une question de salut. Il existe une version de cette croyance dans l'Ancien Testament, en lien avec le nom habituellement traduit par l'Éternel dans l'Ancien Testament, et une version dans le Nouveau Testament, en lien avec le nom traduit par Jésus dans nos Bibles françaises. Je vous en parle plus loin. Reportons-nous maintenant à Exode 20. Exode 20 et le verset 7. Nous allons directement au troisième commandement. Exode 20, verset 7. Tu n'apprendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Par conséquent, il est évident que nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain. Nous ne devons pas l'utiliser de manière profane. Cela inclut le blasphème, au sens où nous l'entendons. Il est aussi question de ne pas l'utiliser à des fins inutiles. Nous lisons ailleurs dans le psaume 111, verset 9. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Son nom est extrêmement important. Ce qu'il représente. Et il doit être tenu en grand honneur. En vérité, frères et sœurs, des exclamations telles que « Ô mon Dieu » ou « Ô mon doux » peuvent s'échapper de notre bouche sans effort, car elles sont si répandues dans notre société, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou au cinéma. Elles peuvent même nous influencer lorsque nous nous laissons aller à des habitudes de langage peu appropriées. Bien sûr, comme l'expliquait M. Ames lorsqu'il était encore là, si vous êtes sur la route et que vous êtes sur le point de vous faire renverser par un camion et que vous criez « Oh Dieu, aide-moi », ce n'est pas de prendre le nom de Dieu en vain. Mais le fait de répéter ce genre de phrase sans raison, c'est assurément enfreindre le troisième commandement. Nous devons donc honorer son nom et tout ce qu'il représente, parce que, franchement parlant, le nom de Dieu est bien plus qu'une simple collection de lettres, n'est-ce pas? C'est bien plus qu'un simple son. Il le représente, ainsi que l'ensemble des valeurs qu'il incarne. Je vais citer plusieurs articles rédigés par M. Wyatt Cecilka, disponibles en anglais seulement. L'un d'eux est tiré du Living Church News de mai-juin 2011, à la page 8. Comment les noms de Dieu révèlent sa nature et sa puissance? Il entre dans les détails, et si vous souhaitez approfondir cette question, n'hésitez pas à le faire. Il y a beaucoup de choses à examiner que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais l'article de M. Sisolka va davantage dans les détails. Il y a aussi d'autres articles en ligne et des commentaires qu'il a écrits. L'un d'eux remonte au 20 avril 2017, « Les noms sacrés, obéir à Jésus-Christ ou suivre les traditions des hommes ». Et puis, il y a un autre commentaire, « 4 erreurs sur les noms sacrés ». J'en ai imprimé quelques-uns. Vous pouvez les obtenir directement sur le site du Tomorrow's World dans la section des commentaires. Donc, si vous voulez creuser la question, nous avons des ressources. Je vous invite à le faire. Reportons-nous à Jean 4, verset 21. Je crois que ce passage est particulièrement pertinent alors que nous abordons ce sujet. Et pour éviter de tomber dans le piège d'une vision très étroite de ce que Dieu s'attend de nous, en ce qui concerne le respect de son nom dans le troisième commandement. Jean 4, verset 21. C'est ici que Jésus s'adresse à la Samaritaine au puits de Jacob. Lisons Jean 4, verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous remarquons plusieurs points ici. Tout d'abord, Jésus a identifié Dieu comme son Père. Certes, il existe des façons appropriées, permises et merveilleuses d'identifier Dieu, bien au-delà des noms hébreux dont nous allons parler. Et l'une d'entre elles est le Père. C'est ainsi que Jésus a identifié son Père. Et puisque c'est assez bon pour lui, c'est certainement assez bon pour nous. Il invoque aussi le fait que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alors oui, nous devons être méticuleux, diligents et attentifs pour parvenir à la vérité et découvrir ce qu'est la vérité. Mais nous devons aussi comprendre l'esprit et l'intention de ce qu'il essaie d'accomplir. Et je pense qu'au fil de notre progression aujourd'hui, nous allons clairement constater que l'idée des soi-disant non sacrés échoue lamentablement à atteindre l'esprit de la loi en ce qui concerne la bonne façon dont nous adorons Dieu et comment nous le comprenons. Revenons donc à Exode, où le nom de Dieu est introduit. Reportons-nous à Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Vous vous souvenez quand Dieu a appelé Moïse dans le désert et lui a parlé de délivrer les Israélites? Moïse lui a demandé, « Eh bien, ils vont me demander qui tu es. Alors, que dois-je leur dire? Qu'est-ce que Dieu a dit? » Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Le mot « Je suis » est la traduction du mot hébreu qui signifie simplement « être ».« J'existe, je suis. J'ai toujours été et je serai toujours. » C'est ainsi qu'il s'est défini. Il a dit, « Voici qui je suis. Dis-leur, je suis m'a envoyé vers vous. » Poursuivons avec Exode 6, verset 1. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » C'est ici qu'il introduit l'un de ces mots, ou un de ces noms que les partisans des noms sacrés considèrent comme quelque chose sur lequel nous devrions vraiment nous concentrer. En hébreu, c'est YHWH. Je suis l'Éternel. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, ou El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel, ou YHWH. Je n'ai pas été connu par eux. Alors, qu'est-ce que le YHWH exactement? Ce mot est traduit par l'Éternel dans nos Bibles françaises. Sa signification de base est « celui qui vit éternellement ». Sa signification de base est l'Éternel. C'est essentiellement la même chose que ce que nous venons de lire dans Exode 3, « Je suis ». Il est également intéressant de noter que ce mot ou nom, YHWH, en hébreu, n'a pas de voyelle. Il s'agit littéralement de quatre consonnes. Les érudits l'appellent le tétragramme, ce qui signifie simplement quatre lettres. Les personnes qui s'intéressent au nom sacré se concentrent sur le fait qu'on ne peut s'adresser à Dieu ou s'y référer qu'en utilisant YHWH. Dans ces deux versets que nous venons de lire, nous voyons que le raisonnement commence à s'effilocher, parce que Dieu avait d'autres noms. Par exemple, souvenons-nous que dans Exode 3, Dieu a dit à Moïse, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est un mot différent de YHWH, n'est-ce pas? C'est le verbe « être ». Il signifie la même chose, mais c'est un mot différent. Ainsi, même avec un regard très, très superficiel, nous constatons que Dieu n'a apparemment aucun problème à être appelé par des noms différents. Nous avons également noté que Dieu a dit à Moïse que les patriarches le connaissaient principalement sous le nom de Dieu Tout-Puissant ou El Shaddai, qui était le nom sous lequel il était principalement connu dans la Genèse. Est-il donc erroné de se référer à lui en tant que El Shaddai, Dieu Tout-Puissant? Bien sûr que non, puisque les patriarches l'ont fait. Devrions-nous exclusivement l'appeler YHWH? Eh bien, nous pouvons voir ici même que ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, quand on parle de ce mystérieux YHWH, personne ne connaît vraiment la prononciation exacte. En effet, elle n'a pas été enregistrée. Et les érudits en débattent encore aujourd'hui et émettent beaucoup d'idées différentes. Cependant, il est intéressant de noter que le nom YHWH était déjà en usage avant Moïse. Par exemple, lorsque Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, après qu'on lui ait dit de ne pas le faire et d'offrir à la place un bélier, il est dit dans Genèse 22, verset 14, Genèse 22, 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, littéralement Yahvé ou YHWH, Jiré ou Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce n'est donc pas que le nom de YHWH n'était pas connu par les patriarches auparavant, mais il semble qu'il n'ait pas été mis en valeur. Il n'était pas connu de la même manière. Peut-être avec la puissance, les merveilles et les miracles dont Dieu a fait preuve lorsqu'il fit sortir Israël d'Égypte. Quoi qu'il en soit, rien n'indique, même dans une très courte introduction à cette question, que le fait d'utiliser l'un ou l'autre de ces noms est important. Poursuivons notre lecture dans Jean 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Où nous allons constater que Jésus s'est identifié comme étant le même être. Jean 8, verset 56. La version Osterwald nous dit, alors qu'il s'adresse aux pharisiens qui le provoquaient, Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous connaissez l'histoire. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passa au milieu d'eux et ainsi il s'en alla. Réfléchissons un instant. Jésus parlait du même concept. L'idée d'un être qui vit éternellement, qui était, qui est et qui vivra à l'avenir. Et dans ce verset, Jean rapporte en grec les paroles du Christ sous la forme de « ego emi ».« Ego emi ». Nous ne savons pas s'il a prononcé ces paroles en araméen ou en hébreu. Il a probablement parlé en araméen. C'était la lingua franca de l'époque. Mais d'une manière ou d'une autre, cette phrase a été enregistrée en grec sous la forme « ego emi ». Je suis. En réalité, lorsqu'ils ont entendu prononcer la phrase « je suis », quelle que soit la langue dans laquelle ils l'ont prononcée, les Juifs savaient exactement de quoi ils parlaient et ils ont dit « c'est un blasphème ». Jésus devait-il utiliser le tétragramme pour se désigner comme Dieu? Eh bien, les mots inspirés qui furent conservés étaient en grec. Ego emi. Voici ce que M. John O'Gwin écrit dans un article que nous mettons à la disposition de ceux qui le demandent, sous le titre « La vérité au sujet des noms sacrés ». Si vous voulez approfondir le sujet, il s'agit d'une réimpression très, très utile que nous mettons à la disposition de ceux qui en font la demande. À la troisième page, sous le titre « Quel est le nom du Créateur ?», il écrit, « Les adhérents de la doctrine des noms hébreux disent que le véritable nom de Dieu est le tétragramme, YHVH. Puisqu'originalement, l'hébreu s'écrivait sans voyelle, il existe parfois des désaccords au sujet de la prononciation de ces mots. C'est précisément ce qui se produit dans ce cas particulier. Les différentes factions du mouvement des noms sacrés sont incapables de s'entendre au sujet de la prononciation exacte du tétragramme. Bien que la majorité sont en faveur de Yahvé, d'autres préfèrent Yahvé, et d'autres encore utilisent des variations subtiles. Les juridis sont en désaccord quant à la prononciation exacte de ce nom, car à la fin de l'époque de l'Ancien Testament, les Juifs, animés d'un respect superstitieux, ont complètement cessé de le prononcer. Ils sont devenus si obsédés par la peur de prendre le nom de Dieu en vain qu'ils ont mis fin à son utilisation. Il en résulte qu'avec le temps, la prononciation appropriée est devenue incertaine. Tout l'argument s'écroule, donc, parce que nous ne savons tout simplement pas comment prononcer ce nom. C'est très simple. Nous ne le savons pas. C'est intéressant comment Dieu a inspiré Paul, dans Romains 3, verset 1, à écrire. Romains 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ainsi, Dieu a préservé la vérité par l'intermédiaire des Juifs. Ne pensez-vous pas que s'il était important de savoir exactement comment prononcer le seul vrai nom de Dieu de l'Ancien Testament, Dieu l'aurait également préservé? Il aurait pu le faire. C'était tout à fait possible. Mais il ne l'a pas fait. Pourtant, il a préservé les oracles de Dieu par l'intermédiaire des Juifs, afin que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour atteindre le salut, pour découvrir la vérité, pour comprendre les lois, pour connaître les commandements, et même pour saisir le sens des paroles de Jésus-Christ et comment nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Dieu avait certainement la capacité d'enregistrer et de préserver la prononciation de son nom, si elle était importante. Et c'est là le point. Ce n'est pas important. Donc, tout au long de ce sermon, nous parlerons de quelque chose qui n'est pas important. Soyez indulgents avec moi. Le problème, c'est que parfois les gens s'accrochent à ces détails. Et donc, en ce sens, c'est important. Reportons-nous maintenant à Matthieu 22. Matthieu 22, verset 35. Voici une autre déclaration de Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 35. Lorsque l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Devinez quoi? Il citait Deutéronome 6, verset 5, où il est dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. » Le mot « éternel » est YHVH. Il citait cette même phrase concernant Dieu de Deutéronome 6, où YHVH est utilisé. Pourtant, dans le Nouveau Testament, dans ce passage, c'est un mot grec qui a été conservé. Ce mot grec est kurion. Kurion, qui est traduit par « Seigneur » ou « Maître » dans le Nouveau Testament. Donc, si Jésus lui-même, lorsqu'il citait l'Ancien Testament, a inspiré les auteurs du Nouveau Testament à traduire YHVH dans une autre langue, ne trouvez-vous pas que c'est acceptable? En effet, ceux qui adhèrent à l'idée des noms sacrés pensent qu'on ne peut pas traduire le nom de Dieu dans une autre langue. Vous devez utiliser le nom hébreu. Mais visiblement, dans le Nouveau Testament, cela ne semble pas être une exigence. Ainsi, le nom YHVH de l'Ancien Testament se dit de diverses manières, Yahvé, Yahweh, Jéhovah. Sa prononciation demeure inconnue, la Bible ne nous fournissant aucune indication à ce sujet. Il n'est pas crucial de connaître la prononciation de ce nom, et il n'est pas le seul nom à utiliser pour désigner Dieu. Examinons maintenant un deuxième nom réputé sacré. Dans l'argumentation des noms sacrés, il s'agit du nom de Jésus. Certains prétendent que le nom de Jésus vient de Zeus, et la raison en est que la forme grecque « Iesous », si vous l'écrivez en français, c'est « I-E-S-O-U-S ». Bien sûr, le grec a d'autres lettres, mais si vous l'écrivez en français « Iesous », certains disent que la dernière consonne ressemble à « Zeus » et ils avancent que « Iesous » vient de « Salut Zeus ».« Salut Zeus ». Cette théorie est-elle vraie? Le fait que deux mots aient la même consonance phonétique rend-il ces derniers nécessairement apparentés? Vous savez, ce n'est pas si difficile à comprendre, n'est-ce pas? Je veux dire que nous avons toutes sortes de mots anglais qui partagent un son avec d'autres langues. Par exemple, en français, le mot « père » sonne comme le mot anglais « pear », qui est un fruit provenant d'un arbre. Y a-t-il un lien entre « père » et « poire » ? Non. Et même en anglais, on peut avoir une paire de poires, n'est-ce pas? Un mot signifiant « deux » et l'autre est ce même fruit qui pousse sur un arbre. Ce n'est donc pas parce que deux mots se ressemblent qu'ils sont liés. Nous le savons tous. Mais il arrive encore que les gens se trompent. Parlons du nom Jésus. Bien sûr, nous savons que Jésus est une version française qu'on n'aurait jamais utilisée au premier siècle en Judée parce que, je vous révèle un secret, on ne parlait pas français à l'époque. Personne ne s'est jamais approché de Jésus-Christ en lui disant « Ton nom est Jésus-Christ, n'est-ce pas? » Il ne parlait pas français. Qu'aurait-il entendu? Son nom était essentiellement Yeshua, Yeshua ou Yehoshua, d'après ce que je sais, quelque chose comme cela. Les formes hébraïques du nom que nous appelons Joshua ou Josué. Nous pouvons trouver cela dans Luc 1, verset 30. Luc 1, verset 30, L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans notre Bible, c'est écrit Jésus, mais le nom est Joshua ou Yahshua. Un lexique biblique indique qu'il s'agit du grec Jésus, qui est une translittération du terme hébreu Yahshua, contracté en Josué, qui signifie « Yahvé sauve » ou « Yahweh est le salut », en supposant que YHVH se prononce Yahweh, ce que nous ne savons pas. Mais Josué ou Yahshua signifie « Yahvé sauve » ou « Yahvé est le salut ». Il s'agit donc essentiellement du même nom que Josué, le Josué qui était l'assistant de Moïse. Mais il est intéressant de noter que dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, la traduction grecque des Écritures hébraïques qui a été réalisée bien avant le premier siècle, les traducteurs, devinez quoi? Lorsqu'ils ont traduit le premier chapitre du livre de Josué, qui parle de l'homme Josué, l'assistant de Moïse, devinez comment ils ont traduit son nom en grec. Jésus. Jésus. Par conséquent, il n'y a aucune justification pour que les traducteurs juifs des Écritures hébraïques en grec disent « Comme nous saluons Zeus, nous allons nommer l'assistant de Moïse Josué Jésus, n'est-ce pas? » Cela n'aurait aucun sens. Et pourtant, c'est exactement de la même manière que l'on traduit Jésus. Donc, si le nom venait vraiment de « Salut Zeus », pourquoi l'aurait-il utilisé pour le Josué de l'époque de Moïse? Vous savez, il s'agirait d'une véritable conspiration, n'est-ce pas? Si les Juifs avaient compris qu'il fallait faire cela bien avant le premier siècle. Cela ne s'est pas produit. Il est clair que « Jésus » ne vient pas de « Salut Zeus », mais une traduction légitime du grec « Yahshua ». En parlant du grec et du Nouveau Testament, permettez-moi de revenir un peu en arrière et de parler de quelque chose que M. Armstrong a écrit en 1972 dans un article de la revue du Good News. Vous pouvez le consulter sur Internet. Il s'intitule « The Plain Truth About the Sacred Names », la pure vérité sur les noms sacrés. Il est un peu long, mais je pense qu'il vaut la peine d'être lu et vous verrez pourquoi au fur et à mesure que nous avançons. Il écrit « Je veux raconter comment j'ai découvert que l'enseignement des noms hébreux n'est pas une nouvelle vérité, mais une vieille fausseté. La plupart d'entre vous savent qu'après que Dieu m'a appelé comme son instrument dans sa grande commission après ma conversion au printemps 1927, ma femme et moi avons côtoyé des membres de l'Église de Dieu en Oregon, dont le siège était à Stanbury, dans le Missouri. Il parle ensuite des controverses au sein de l'Église à cette époque et de la façon dont elle s'est divisée. Il poursuit. Après avoir été battu à la conférence de Stanbury en 1933, le président éditeur déchu a quitté cette église et s'est associé à l'ancien Ciudad. Vous vous souvenez de ce nom mentionné dans l'article Wikipédia? Il s'est ensuite associé à l'ancien Ciudad pour organiser une nouvelle organisation concurrente. Celle-ci revendiquait un siège social à Jérusalem et un siège américain dans la petite ville de Salem, en Virginie-Occidentale. Cette nouvelle organisation à Salem, en Virginie-Occidentale, s'est rapidement dissoute, apparemment en 1937, lorsque l'ancien Ciudad s'est lancé dans le mouvement des noms hébraïques. Apparemment, ce nouvel enseignement des noms hébraïques a commencé dans les années 1930. Le docteur John R. Briggs a rencontré M. August Sheffick, qui insistait sur le fait que le mot anglais « Christ » était d'origine païenne. Le docteur Briggs a donc commencé à mettre l'accent sur le nom hébreu « Yeshua ». Il était associé à un A.B. Trena dans une assemblée du New Jersey. Ce groupe obtint d'abord une charte sous le nom d'Assemblée de YHVH, puis sous le nom de Yahvé Beth Israël. Le docteur Briggs en assurait la direction. « Nous entrons, c'est M. Armstrong qui écrit, Maintenant, dans l'histoire dont je me souviens personnellement, M. Dodd avait quitté le groupe de Salem comme il l'avait quitté l'organisation de Stanbury et fut rebaptisé dans le Michigan au nom de Yeshua par l'ancien Earl Big Ford en 1941. Sa Faith Bible et Tract Society avaient publié le magazine The Faith à partir de 1937. Je recevais le magazine The Faith assez régulièrement et je me souviens des articles de M. Trena sur le fait de prononcer ou d'écrire le nom de Dieu ou du Christ uniquement en hébreu, ce qu'il appelait bien sûr les noms sacrés. M. Dodd et moi avons discuté de cette nouvelle doctrine au téléphone. Donc, le CEO Dodd mentionné plus tôt dans l'article de Wikipédia, M. Armstrong va maintenant parler d'une conversation qu'il a eue avec lui au téléphone. C'est fascinant. Il raconte, « Je lui ai dit, autant que je puisse me souvenir des mots, « Elder Dodd, vous savez comment toutes les preuves prouvent que le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en langue grecque. Il a été inspiré par la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, le nom de Jésus et de Dieu ainsi que les titres ont été inspirés pour être écrits en langue grecque et non en hébreu. De plus, une grande partie du Nouveau Testament contient des citations de l'Ancien Testament. » Et lorsque ces passages de l'Ancien Testament contiennent des noms ou des titres de Dieu, le Saint-Esprit les a inspirés pour qu'ils soient écrits dans le Nouveau Testament en langue grecque. Je ne peux pas changer ou pervertir ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit, le pouvez-vous? M. Armstrong avait une façon unique de dire les choses. Pendant un moment, Elder Dodd a semblé confus. Après quelques hésitations, il a dit « Alors, je pense que le Nouveau Testament doit avoir été originellement inspiré et écrit en langue hébraïque, et les copies grecques du Nouveau Testament doivent être des traductions erronées et non inspirées. » J'ai répondu « Elder Dodd, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Toutes les autorités savent que les seules copies des écrits originaux qui ont été conservées sont en grec et qu'il n'y en a absolument aucune en hébreu. Vous dites comme argument, sans aucune autorité, qu'il n'y a pas de copie des écrits originaux inspirés du Nouveau Testament et que les seules copies sont erronées? Et si elles sont erronées partout où le nom de Jésus ou de Dieu sont mentionnés, comment pouvons-nous savoir qu'elles ne sont pas erronées à bien d'autres endroits? Nous n'avons donc pas de parole de Dieu sûre pour les Écritures du Nouveau Testament, mais seulement des traductions non inspirées. Peut-être que les traductions en grec ont été inspirées, a-t-il suggéré. Puis M. Armstrong continue, « Si cela s'est produit, alors le Saint-Esprit a inspiré les traductions qui écrivent les noms de Jésus et de Dieu en grec, et non en hébreu. » Elder Dodd était maintenant vraiment confus. Il n'avait pas de vraie réponse. Mais il a continué dans ce faux enseignement sans s'en préoccuper, pour autant que je sache. Voyez-vous ce que M. Armstrong essayait d'expliquer? Il faisait valoir que, d'après toutes les preuves dont nous disposons, le Nouveau Testament a été préservé en grec. Il a été écrit en grec. Il existe un livre intitulé « Evidence that demands a verdict » by Joss McDowell, qui explique que nous avons 5686 manuscrits ou parties de manuscrits du Nouveau Testament en grec, toujours existants aujourd'hui. Devinez combien il y en a en hébreu? Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de manuscrits en hébreu. En d'autres termes, cet argument suggère que chaque manuscrit original supposément écrit en hébreu a été opportunément perdu ou détruit. N'est-ce pas là un argument commode? Parlons un peu de l'utilisation du grec dans le Nouveau Testament. Reportons-nous à Colossiens chapitre 4. Colossiens, chapitre 4. Quand nous réfléchissons à l'importance de ce point, nous devons nous rappeler, dans l'histoire, qu'après l'hellénisation du monde connu, souvenons-nous d'Alexandre le Grand, qui a conquis tout le Moyen-Orient jusqu'en Inde. Il a fait rayonner la culture grecque, y compris la langue. La conséquence de ceci est le fait que le grec était la langue couramment utilisée à travers l'ensemble de l'Empire gréco-macédonien. Colossiens 4, verset 16. Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Quel était donc le but de ces lettres écrites par Paul? Qu'elles soient lues dans les églises. Quelle était la nature de l'église à Colosse? Colossiens 2, verset 13 nous dit, Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il s'agissait d'une congrégation de païens. Ce n'était pas une congrégation juive. Il y avait peut-être quelques juifs parmi eux, mais c'était avant tout une assemblée de païens, car il leur parle de leur incirconcision. Pensez à ceci. Cette lettre, ainsi que la lettre aux Laodicéens, devait être lue à l'Église. Et si vous allez dans Colossiens 1, verset 1, Colossiens 1, verset 1, Paul commence cette lettre en disant au verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Frères et sœurs, dans quelle langue Paul a-t-il écrit cette phrase, « Le Seigneur Jésus-Christ » C'était en grec. Et dans quelle langue cette phrase est-elle lue? C'était en grec. Et dans quelle langue cette phrase fut-elle entendue dans les assemblées pendant que cette lettre leur était lue au cours de l'assemblée? C'était en grec. Et cette phrase est « Paulos Apostolos Jesus Christos ». C'est au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. En d'autres termes, même dans une assemblée, ils utilisaient le mot, le nom « Jésus ». Il n'y avait rien de mal à cela, parce qu'ils parlaient grec et qu'il n'y avait aucun problème à traduire le nom de Dieu dans une autre langue. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. 1 Corinthiens 8, verset 4. Parfois les gens disent, le mot Dieu lui-même est païen. Il vient d'un vieux mot allemand, un mot teutonique, Gott. Et puisque le mot Dieu peut se référer à des divinités païennes, nous ne pouvons pas l'utiliser pour le vrai Dieu. Est-ce vrai? Remarquez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quel est le mot pour Dieu ici? Théos. Théos est un mot grec. Puis il ajoute au verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Il y a deux endroits où il fait référence au faux Dieu. Et quel mot utilise-t-il? Théos, dans les deux cas. Paul utilise donc un mot qui, selon le contexte, peut désigner soit un faux Dieu, soit le véritable Créateur suprême, le Père céleste. Si c'est vrai en grec, c'est certainement vrai aussi en français. Prenons un autre exemple dans cette ligne de pensée. Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Dans cette question de langue, devons-nous seulement nous référer à Dieu en hébreu? Y a-t-il quelque chose de mystique ou de plus spirituel si nous utilisons les mots de notre langue qui sont couramment utilisés pour désigner le Créateur suprême? Est-ce correct? L'Écriture nous montre que c'est tout à fait acceptable. Il n'y a rien de mal à employer les mots de notre langue pour parler du vrai Dieu. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu, Theos, il s'agit clairement du Dieu suprême, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, Theos, est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qui sont les « ils » Les « ils » sont les gentils. Les « ils » sont les païens. Les « ils » sont ceux qui adorent les faux dieux. Remarquez ceci, verset 21. « Car ayant connu Dieu, les païens, à une époque, si nous remontons assez loin, jusqu'à l'époque de Noé ou encore plus loin, ils connaissaient Dieu, le Théos. » Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, Théos. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En d'autres termes, par l'exemple de Paul, il n'y a rien de mal à appeler Dieu Théos. Il s'agit formellement du Dieu créateur. Et à un moment donné, le monde païen des siècles ou des millénaires passés connaissait en fait le vrai Dieu. Ce sont eux qui se sont corrompus. Ce n'est pas que nous prenons un nom corrompu et nous l'avons attribué à Dieu. Voyez-vous la différence? Frères et sœurs, il est vrai que cela peut sembler fastidieux. Mais il est crucial de comprendre que l'argument selon lequel nous devrions utiliser l'hébreu pour honorer Dieu, même si nous ne parlons pas cette langue, est complètement absurde. C'est absolument ridicule. Et la Bible ne soutient pas du tout cette idéologie. Point final. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour nous, maintenant que j'ai terminé l'introduction? Nous avons beaucoup parlé de ce que nous ne devrions pas faire. Il est temps d'aborder ce que nous devrions faire. Car il est facile, en pensant à ce sujet, de dire « nous ne devrions pas faire cela » et d'oublier l'importance du nom de Dieu et de ce qu'il représente. Par exemple, YHWH signifie qu'il vit éternellement, qu'il n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura jamais de fin. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela? Dans ce monde moderne, marqué par la confusion, la violence et l'adversité, ne devrions-nous pas être reconnaissants d'adorer un Dieu qui ne mourra jamais, qui n'est pas sujet à la corruption et à la mort? Jésus s'est fait chair, et il est mort lorsqu'il était sur cette terre parce qu'il a choisi de devenir chair. Mais maintenant, il est assis à la droite du Père et il ne mourra plus jamais. Grâce à cela, nous avons l'espoir de ne pas avoir à mourir pour l'éternité. C'est important. L'essence du nom YHWH, le « je suis », est absolument importante. Et notre salut dépend de cette vérité, n'est-ce pas? Le concept selon lequel Dieu vit éternellement. Vous savez, c'est pourquoi nous, les ministres, durant les sermons, quand nous lisons l'Ancien Testament, parfois au lieu de « Seigneur », nous dirons « celui qui vit éternellement ». Le docteur Meredith le disait souvent, n'est-ce pas? « Celui qui vit éternellement ». Mais pour nous rappeler que ce n'est pas seulement le mot « Seigneur » qui englobe une partie de la signification « notre Seigneur et Maître », mais aussi le fait qu'il vit éternellement. Et c'est important. Reportons-nous à Jean 17, verset 3. Reportons-nous à Jean 17, verset 3. En réfléchissant sur ce sujet, qu'est-ce que nous ne voulons pas faire? Nous ne voulons pas nous laisser entraîner à n'utiliser que des noms hébreux pour désigner Dieu. Mais que devrions-nous faire? Eh bien, nous devrions apprécier grandement le nom de Dieu et ce qu'il représente. Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le nom de Dieu, YHWH, est intrinsèquement lié au fait qu'il vit éternellement. Jean 17, verset 11. Jésus dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. » Jésus appelait son Père le Père. Il n'y a rien de mal à avoir différentes façons de s'adresser à Dieu. Il l'a appelé Père. Il dit, verset 11, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Le nom de Dieu est-il important? Absolument. Il a posé son nom sur l'Église, vous le savez. L'Église appartient à Dieu, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas une chose insignifiante. Nous lisons également que nous allons porter son nom. Lorsque nous nous attardons à décortiquer le nom de Dieu, il y a toutes sortes de choses dans la Bible qui nous montrent à quel point il est important. Je sais que je m'adresse aux membres de l'Église, mais lorsque nous pensons à ces soi-disant noms sacrés, quelle distraction de la vérité! Quelle distraction que de s'acharner sur une langue particulière et un nom particulier au lieu de comprendre l'essence de ce que ce nom représente. Jean 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, remarquez-le, et je leur ferai connaître. Il leur a parlé du Père. Il leur a expliqué qui était le Père, et je leur ferai connaître ton nom afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Nous ne diminuons pas du tout le nom de Dieu. Nous nous concentrons sur ce qui est important, plutôt que de nous laisser détourner par quelque chose d'insignifiant. Des sujets auxquels les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais consacré leur attention. Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez aucune mention de l'importance d'utiliser certains noms hébreux pour honorer Dieu. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, le nom de Jésus est-il vital? Absolument. D'ailleurs, les Juifs de son époque ont ordonné aux apôtres de cesser de prêcher en son nom. Au nom de qui tenez-vous ces propos? Cessez de prêcher en ce nom. C'était important. Le nom de Jésus signifie le salut. C'est extrêmement important pour nous. Mais nous n'avons pas besoin de le dire en hébreu. pour que cette importance soit saisie, qu'elle fasse partie de notre vie. C'est là l'essentiel. Je dois dire que lorsque nous lisons sur le soi-disant mouvement des non-sacrés, ce qu'ils disent, c'est, bien sûr, nous reconnaissons que le nom représente la grandeur, la puissance et la majesté de Dieu. Bien sûr, nous le reconnaissons, et c'est ce qu'ils diront. Le problème est que le son, le langage, le nom lui-même devient si important qu'il éclipse la substance du sens. C'est pourquoi dans la Bible, nous ne voyons aucune instruction sur la nécessité de s'adresser à Dieu dans une langue particulière. Monsieur Armstrong disait toujours, « Tenez-vous-en au tronc de l'arbre, ne construisez pas sur les brindilles. » Et il s'agit d'un argument classique rachitique comme les brindilles. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous arrivons donc à un point de notre vie où nous commençons à comprendre que chaque pensée, chaque action, chaque parole, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce que nous faisons devrait et doit être guidé par notre Sauveur et fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous lui appartenons. Il est intéressant de noter que Jésus a prédit que la tromperie deviendrait de plus en plus grave jusqu'à la fin. Mais il est également intéressant de noter que Jésus n'a pas prédit qu'il y aurait de faux enseignants utilisant le mauvais nom de Dieu. Il a plutôt dit qu'il y aurait de faux enseignants qui utiliseraient son nom, mais faussement, n'est-ce pas? Matthieu 24, verset 5. « Car plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Il n'a pas dit « plusieurs viendront, et ils porteront un mauvais nom, et à cause de cela, ils séduiront beaucoup de gens. » Non, il a dit « plusieurs viendront en mon nom, et auront un message erroné. » C'est à cela que nous devons veiller. Reportons-nous à psaume 9. J'allais dire chapitre 9, mais j'ai entendu la voix de M. Ames au fond de ma mémoire. Les psaumes n'ont pas de chapitre, ce sont des psaumes. Reportons-nous à psaume 9. Psaume 9, verset 2. Psaume 9, verset 2. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » On trouve le nom de Dieu partout dans la Bible. Et même lors de nos cantiques aujourd'hui, nous louons son nom. Dans nos prières, nous ne nous contentons pas de dresser une liste de nos besoins. Oui, nous nous adressons à lui pour nos besoins, mais nous louons aussi son nom dans nos prières. Nous le remercions du fond du cœur. Verset 8. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Notez attentivement le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom. Encore une fois, nous vivons à une époque dangereuse. Nous voyons nos nations sur une pente dangereuse. Nous pouvons potentiellement les voir s'effondrer, et nous pouvons voir que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Quelle est l'importance pour nous qui vivons à cette époque de vraiment connaître le nom de Dieu? Cela signifie que nous sommes proches de lui, que nous entretenons une relation avec lui, que nous marchons à ses côtés. Nos cœurs et nos esprits sont tournés vers lui. Il est notre centre d'intérêt, il a notre attention. C'est ce que signifient ceux qui connaissent mon nom. Et pas seulement, pouvez-vous prononcer mon nom en hébreu? Remarquons le psaume 91. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. C'est Dieu qui parle. Je le protégerai. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Frères et sœurs, est-il important de comprendre le sujet, l'idée et le concept du nom de Dieu? Absolument. C'est vital. C'est au cœur de tout ce que nous croyons. Et nous allons porter ce nom. Mais ce n'est pas seulement un mot hébreu. Verset 14. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous devons connaître le nom de Dieu, ce qui signifie que nous devons le connaître personnellement. Nous devons marcher avec lui. Et peu importe que nous l'invoquions en anglais, en grec, en français, en suisse, ou pour ceux du sud, avec un accent, peu importe la langue. J'ai vu M. Lyons ici et je n'ai pas pu résister. Il est intéressant de noter que lorsque Jésus était pendu au bois, qu'a-t-il fait? Dans ses dernières heures, il a dit « Abba, Père ». Il a appelé son Père. Il n'a pas utilisé le mot « prescrit » YHVH. Il a appelé son Père. Probablement en araméen, qui était la langue parlée dans cette région à son époque. Si cela convient à Jésus, cela nous convient à nous aussi. Dieu nous a appelés à sa vérité. Ne nous laissons pas abuser par des arguments stupides. Et franchement, c'est ce dont il s'agit en fin de compte. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, Ézéchiel chapitre 20, nous trouvons une prophétie concernant le futur. Nous avons commencé par parler dans Exode et Genèse. Et finalement, nous avons parlé des Israélites quittant l'Égypte. Eh bien, voici un passage qui évoque, finalement, leur unification une seconde fois. Ézéchiel 20, verset 38. Verset 38. « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que chacun aille servir ses idoles, mais après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. » Comment profanons-nous le nom de Dieu? En utilisant un mauvais langage? En utilisant le mauvais mot? Ou est-ce en ayant des idoles, qu'il s'agisse d'idoles physiques ou d'idoles du cœur? Comment profanons-nous le nom de Dieu? en ne lui obéissant pas, et non pas par le langage que nous utilisons pour l'adorer. Vous souvenez-vous du récit de l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël et du fait qu'ils étaient à deux doigts d'être anéantis? Moïse a intercédé. Finalement, Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Et il est vraiment intéressant de lire le récit de ce que Dieu a dit. Exode 33, au verset 18. Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » C'est ce que Dieu a dit. Nous lisons ensuite au chapitre 34 et les versets 5 à 8, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. N'est-ce pas intéressant? Qu'allons-nous lire ensuite qui définit ou explique ce qui se passait lorsqu'il proclamait le nom de l'Éternel? Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Frères et sœurs, comment adorons-nous Dieu? Comment l'honorons-nous? Est-ce en l'invoquant dans une langue particulière? Plus vous examinez cette question, plus l'idée et la question vous semblent ridicules. Non! Nous adorons Dieu, nous l'honorons et nous lui obéissons en faisant ce qu'il dit, en nous soumettant à lui, en l'aimant de tout notre cœur, en alignant nos vies sur lui et en étant reconnaissants pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente. Il ne s'agit pas d'une façade pseudo-virtueuse, un vernis qui sonne juste, mais nous lui obéissons en esprit et en vérité. Soyons donc reconnaissants envers la vérité et la compréhension que nous avons du véritable nom de Dieu, que nous puissions invoquer ce véritable nom de Dieu et que nous soyons nommés par ce nom. En fin de compte, nous porterons son nom pour toujours. Nous sommes membres de l'Église qui porte son nom, et tout ce qui est lié au nom remarquable et prestigieux de notre Père Céleste, dont nous porterons le nom, et le nom de notre frère aîné et sauveur Jésus-Christ. Comprendre réellement le nom de Dieu est une compréhension profonde et remarquable.